Elle nous présente sa biographie, le titre « Au-delà du pouvoir ». Pauline Marois est avec nous. Madame Marois, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Avant de parler de votre livre, là, il faut que je fasse appel à vous ce matin. Vous avez été ministre, première ministre. Oui. Il y a une décision importante que le premier ministre actuel du Québec doit prendre aujourd'hui. À la lumière de l'évolution de la COVID au Québec, comment ça se prend, ces décisions-là? Vous avez occupé le poste. Qui joue les cartes?
Oui, absolument. Bon, d'abord, je pense qu'ils y font référence. M. Dubé, il faisait référence, entre autres, hier, à Tout le monde en parle. Il y a vraiment une cellule de crise. Bon. Et c'est à la fin du processus, là, c'est le premier ministre qui prend la décision. Mais je peux vous dire que ça pèse lourd sur nos épaules et qu'on se sent très seul dans ce cas-là. Bon, mais le premier ministre, qu'il fait, normalement, il va aller chercher d'abord les meilleurs éléments de son cabinet qui vont être auprès de lui, des stratèges, des gens qui ont une vision, qui ont une connaissance profonde de nos institutions et surtout de la sociologie, de la réalité des Québécois et des Québécoises. Et va s'assurer que l'équipe de la santé publique va avoir fait un tour complet de la situation. Et moi, jamais je ne prenais de décision, ça m'est arrivé exceptionnellement, puis je les ai regrettés souvent, jamais je ne prenais de décision sans qu'on me fasse un portrait complet de la situation. Les problèmes rencontrés, là où c'était plus difficile, le nombre de cas, dans quelles circonstances, pourquoi, les propagations, et puis pas une affaire de 25 pages, là, parce que ça, c'est M. Lévesque qui m'a appris ça. À un moment donné, il faut avoir des synthèses qui nous soient présentées, mais qui vont à l'essentiel, pour qu'on puisse être capable ensuite de prendre une décision éclairée. Donc, j'irai chercher toute cette information-là. Je les entendais dire, on va consulter toutes les directions de santé publique, absolument et essentiel, non seulement les consulter, mais avoir des données fiables qui vont nous permettre d'éclairer la situation de telle sorte qu'après, on puisse exercer notre jugement. Mais il y a un jugement qu'on doit exercer. Jusqu'où on va aller? Quelles conséquences ça a? Je pense que quand ils disent, et je suis tellement d'accord avec ça, il ne faut pas fermer les écoles. Ça, c'est fondamental. Alors, première chose, maintenant, pour pas les fermer, qu'est-ce qu'on doit poser comme condition? Ensuite, il y a toutes les questions économiques, les restaurants, les bars. Puis regardez comment se transmet finalement la pandémie, mais le virus. Et parce que s'il ne se transmet pas dans les bars, pourquoi on les fermerait? On l'a vu, vous avez fait des blagues tout à l'heure, je vous écoutais sur le karaoké. Bon, mais s'il y a des situations inacceptables, ben qu'on ferme les établissements où ça se passe, mais pas nécessairement une fermeture sous azimut. Bon, mais le processus de prise de décision, pour moi, il est très important et surtout, il faut que l'éclairage soit complet. Puis après, là, c'est une question de stratégie aussi. S'il va trop loin et que la population réagit très mal et ne suit pas les directives, bon, on n'a pas pris la bonne décision. Et ça, c'est pas facile à doser. Là, j'avoue que c'est une situation assez complexe et on marche un peu des œufs et pour pas dire des charbons ardents dans certains cas.
Madame Marois, prenons un exemple très clair. Les Québécois ont suivi les directives de façon, je dirais, presque exemplaire au printemps.
Absolument.
Et on sent, et là je mets de côté les complotistes et ceux qui, bon, la très petite minorité là, qui fait du bruit, là, mais beaucoup de gens commencent à être un peu fatigué, à suivre un peu moins, à dire que finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. On regarde les bilans, il y a moins de décès, les gens touchés sont plus jeunes, s'en sortent mieux. Comment vous pourriez vous y prendre pour convaincre les gens de donner ce coup supplémentaire pour cette deuxième vague?
Vous avez tellement raison sur le fait que les gens sont tannés. Moi-même, qui suis une grand-mère avec 8 petits-enfants, je m'ennuie 2, je les ai vus plus cet été parce de la distanciation, etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant concrètement? D'abord, moi, je trouve que la publicité un peu dramatique, là, c'est important. Quand on a commencé à porter la ceinture de sécurité dans les voitures, on a exagéré, ou les accidents. Bon, moi, je pense que c'est pas exagéré que de dire, voilà les cas. Il y a une chose, je trouve, qu'on n'explique pas beaucoup, c'est pourquoi c'est si important de le contrôler parce que ça va avoir un impact sur nos services hospitaliers. C'est parce que le jour où on a 500, 600, 800, 1000 personnes, 1500 personnes dans nos hôpitaux, c'est des cancers qu'on soigne pas, c'est des personnes qui sont pas opérées, C'est donc parce que effectivement, quand on regarde ça, qu'on prend un peu de distance, on dit les jeunes sont pas si touchés que ça, on meurt moins maintenant parce qu'on a contrôlé davantage ce qui se passait du côté des personnes âgées, en particulier dans les CHSLD. Mais la véritable conséquence, c'est l'engorgement de nos services qui fait que c'est des personnes qui vont payer un prix énorme pour ça. Alors ça, moi, je trouve que c'est pas encore suffisamment expliqué. L'autre chose, on devrait sans doute, on l'a fait au début, avoir des porte-parole un peu fous là, qui vont être crédibles auprès des jeunes et qui vont embarquer dans le jeu en expliquant pourquoi ils ont une responsabilité dans la société et comment on compte sur eux. Comment le dire, comment le faire? Je ne suis pas une spécialiste des communications et du marketing, mais il y a probablement une avenue là qui pourrait être empruntée si on veut. Mais il n'y a pas de solution miracle. Le message doit continuer à être martelé et on doit aussi faire preuve d'empathie. Moi, je pense que le gouvernement est quand même pas trop mal là-dessus. Justement, comprendre que les gens en ont un peu ras-le-bol puis que ils ont le coup de relâcher un peu. Puis c'est normal, tout le monde est un peu dans cette situation-là. Mais l'effet du relâchement est catastrophique et pourrait l'être davantage. Et là, il faut expliquer pourquoi. Si on engorge nos services de santé, c'est, les cas de pandémie, à la limite, pourraient ne pas monter aussi haut qu'on le craint, mais ils vont accaparer d'abord des ressources très précieuses. Hein, les lits de soins intensifs, ça mobilise des ressources hospitalières, des infirmiers, des infirmières, du personnel médical, du personnel de soutien, du personnel technique, mais c'est des places qu'on n'a plus pour soigner des cas de cancer, soigner des cas de personnes qui ont des problèmes de cœur, des problèmes cardio. Alors, c'est ça qu'il faut essayer d'illustrer parce que on comprend mieux à ce moment-là pourquoi c'est si important de limiter l'éclosion et le développement de la pandémie.
Parlons de votre livre. Première question que je vous pose ce matin, comment une intervenante sociale, une femme avec des valeurs plus à gauche, a pu tomber en amour avec un affreux capitaliste?
Parce que c'était un homme d'une très grande générosité et c'était un homme aussi, un homme de famille. Hein. Il faut savoir que dans sa famille, j'en parle pas beaucoup, mais elle avait un frère lourdement handicapé et c'est lui qui en a pris soin parce que ses parents voulaient qu'il aille à l'école. Il n'avait pas de problème de santé mentale ou de retard, mais au plan physique, il était très amoché. Alors Claude en prenait soin, l'amenait à l'école, le protégeait parce qu'il y avait des colibés à son endroit, etc. Alors, c'est un homme très généreux, c'est un homme qui était capable de prendre soin de ceux et celles qu'il aimait, puis c'était un homme très audacieux, moi j'ai toujours aimé, et fort au plan, je dirais, moral, là, au plan psychologique. C'est un homme, il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions avec lui. Elles sont pas parfaites, mais il en trouve. Puis il n'est jamais découragé devant la vie. Moi, il y a des jours où je me disais, ah non, c'est pas vrai, là, je pense que je vais tout mettre ça de côté parce que là, c'est trop. Puis là, il me retrouvait toujours une façon de me remonter le moral. Alors, ce sont ces qualités-là qui m'ont plu chez lui. Et puis, bon, on était du même milieu. Mon père était mécanicien dans un garage à Québec de camions. Son père avait des petites stations d'essence, des gaz-bars, comme on les appelle maintenant, mais à ce moment-là, c'est des stations d'essence, et puis il y avait comme un mini dépannage, là, du pain, du lait, puis des petites choses comme ça. Alors, il travaillait très fort avec son père, donc c'est un homme travaillant. C'est tout ça qui m'a attirée vers lui. C'était des amours de village, et ça a été un amour de village qui a duré, puisque ça faisait 51 ans hier, j'avais oublié ça d'ailleurs, que nous étions mariés.
Vous avez travaillé avec des chefs, des personnages, là. Évidemment René Lévesque, mais Jacques Parizeau aussi, qui était votre collègue. Oui. Vous avez travaillé au bureau de Jacques Parizeau. Est-ce que ces chefs-là et l'environnement, je sais qu'il y a eu des progrès qui se sont faits année après année, mais une femme en politique, à cette époque-là, c'était quelque chose quand même d'extrêmement difficile, là. C'est encore un boys club.
Oui, c'est encore un boys club. Et c'est comme s'il fallait prouver doublement qu'on était capable de faire les choses. C'est comme si aussi on avait un doute sur notre capacité de prendre en charge des lourdes responsabilités. On craignait notre fragilité, alors que s'il y a quelque chose qu'on peut constater dans la vie, c'est que les femmes sont souvent très fortes physiquement, moralement, psychologiquement, et sentir fort bien quand elles sont des défis importants à relever. Mais c'était comme une espèce de double standard qu'on nous appliquait. Puis, on était isolés. Hein? Écoutez, moi, quand je suis arrivée au Conseil des ministres, il y avait Denise Leblanc-Bentley qui était là. Et moi, nous étions deux femmes au Conseil des ministres. Alors, quand on levait la main pour parler de politique qui concernait la famille, les enfants, parce que les hommes nous laissaient ça aussi. Remarquez qu'on s'en occupe, on essayait de s'en occuper au mieux. Mais oui, c'était vraiment pas facile. Et encore une fois, chaque fois, il fallait prouver. T'sais, moi, j'avais deux diplômes. J'avais un bac en service social, j'ai une maîtrise en administration. Et j'avais des collègues qui avaient une formation beaucoup moins élaborée que moi, qui avaient moins d'expérience aussi de terrain, parce que j'avais quand même dirigé un CLSC, je m'étais impliquée beaucoup dans le développement des services sociaux à Montréal. Mais c'est comme si ils nous en imposaient, voulaient nous en imposer et pensaient qu'on était moins talentueux et moins capables que de faire la job. Ça, je l'ai senti, surtout au début. Ça s'est calmé par la suite, une fois que j'ai pris ma place, puis j'ai défendu mes dossiers. Mais quand j'arrivais au Conseil des ministres, là, j'aurais pu répondre à la troisième question concernant le dernier paragraphe, la dernière virgule avant la fin du texte. Parce que je voulais pas me faire prendre sur quoi que ce soit. Je me disais, ils me déstabiliseront pas, puis ils me feront pas paraître incompétente ou incapable de comprendre, de connaître mes dossiers. Alors ça, là, mais je travaillais doublement par rapport à ce que de mes collègues qui arrivaient au conseil, des fois, je me disais, il n'est même pas capable de parler de son dossier correctement, mais ça passait. Ça passait. Hein?
Bernard Landry, ça ne marchait pas, par exemple.
Mais Bernard Landry, écoutez, j'ai toujours été un peu tiraillée à cet égard-là parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Bernard. J'en ai toujours, d'ailleurs, pour ce qu'il a fait. Écoutez, c'est un débattu formidable. C'est un discoureur exceptionnel. On l'écoutait bouche bée, nous parler de l'histoire, faire des liens entre notre situation actuelle et ce que nous avions vécu dans le passé, toutes les questions économiques, etc. Mais en même temps, on s'est retrouvé en compétition très tôt dans notre vie politique, dès 1985, quand M. Lévesque quitte. Je me présente à la course sans espoir aucun de gagner, mais pendant la course, je pense que je vais y arriver peut-être. Et Bernard se présente aussi. Mais après quelques semaines, il se rend compte que sa candidature n'est pas appuyée, n'est pas soutenue. Alors moi, la jeune femme ministre qui arrive, qui a peu d'expérience, qui n'a pas sa connaissance, son engagement au niveau du Parti québécois, moi, tout d'un coup, j'apparais comme devant lui. Il me semble que je sois devant lui. J'ai plus d'appui, j'ai plus de soutien. Et chose qui l'a, je pense, l'a vraiment complètement déstabilisé, il y a un sondage à un moment donné dans le journal Les Affaires. Et dans ce journal, on dit que, par ordre de préférence des milieux d'affaires, après un sondage, est-ce que c'est scientifique, je ne sais pas, c'est Pierre-Marc Johnson, Pauline Marois et Jean Garon. Puis je pense que Bernard arrive le quatrième ou à ex-écho avec Jean Garon. Ça, là, ça lui a coupé les jambes. Parce qu'évidemment, il avait travaillé jusque-là de façon importante et intense pour l'économie du Québec. Et puis, je le dépassais, si on veut. Alors ça l'a atteint beaucoup. Puis je pense qu'à partir de là, c'est comme si il s'était mis en tête que, dans le fond, il trouverait qu'il pouvait être leader. Et puis, il a posé les gestes qu'il fallait, évidemment, pour arriver à ce résultat-là. Et donc, à partir de là, il y a eu des tensions. Mais c'était pas des tensions permanentes. Hein. On pouvait travailler ensemble sur beaucoup de dossiers. Quand j'ai été...
Vous dites assez clairement dans le livre, là, mais c'était vraiment les rivaux de la direction perpétuelle du Parti québécois. Le temps file, il faut que je vous parle, bien sûr, de l'attentat. Oui. Ce que je comprends dans le livre, je comprends deux choses importantes. D'abord, si la météo avait été différente, ça aurait été...
probablement morte.
Je pense que ça, c'est assez clair.
Ouais, deuxièmement, ouais. Et ma famille aussi, hein, parce que on allait, il y avait ma mère était là, mon conjoint évidemment, mes enfants, on s'en allait ensemble vers la métropolis. Alors probablement qu'on y serait tous passés.
Puis en même temps, après, vous avez pas, vous n'êtes pas revenu très souvent sur l'attentat. C'est comme si vous avez fait le choix de placer ça discrètement comme étant un événement, mais pas de tabler là-dessus.
C'est ça. Et puis, bon, je voulais pas non plus. D'abord, je l'explique dans le livre, mais je voulais pas exacerber nos relations avec la communauté anglophone. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les Anglo-Québécois. J'avais travaillé beaucoup avec la communauté anglo-québécoise au moment du changement des commissions scolaires confessionnelles pour aller vers les commissions scolaires linguistiques. J'avais beaucoup de respect pour cette communauté qui est autant québécoise que les francophones le sont. Et je me disais, je commence un mandat comme souverainiste, exacerber cette relation-là en mettant en lumière le fait qu'il attaquait une souverainiste et que c'était les Anglais se réveillent, c'était ses propres propos. Alors ça, ça a été un élément. Le second élément, j'arrivais comme première ministre à la tête d'un gouvernement minoritaire, j'avais beaucoup de projets en tête, je voulais pas me laisser distraire par cet événement-là, puis que ça accapare beaucoup de mon temps. Et l'autre aspect, qui est moins dit, mais je voulais pas utiliser cet événement pour me faire du capital politique. Mais en même temps, c'était, en fait, j'aurais dû le traiter davantage comme cela était, un attentat politique, et sans nécessairement l'exploiter à des fins de capital politique, au moins nommer les choses. Je ne l'ai pas fait, j'aurais sans doute dû le faire, mais c'est derrière moi. Et j'avais beaucoup d'autres engagements à tenir, d'autres défis à relever. C'est à ça que je me suis consacrée rapidement. Heureusement, le procès avec le juge qui a prononcé le jugement a confirmé ce qui était, à mon point de vue, ce qui s'est vraiment passé, un attentat politique, un attentat contre la démocratie, finalement.
Madame Marois, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Merci, M. Arcand. Et bonne journée.
Bonne journée. Pauline Marois, Au-delà du pouvoir, publié chez Québec Amérique. Biographie de l'ex-première ministre. Bon, ben c'est terminé pour aujourd'hui. On s'en va? On va-tu revenir pour un petit coup? OK. On revient dans deux instants, ou trois ou quatre, pour une petite conclusion. Tout de suite après, c'est les messages.